France Inter.
France Inter. Le 18-20. Éric Delvaux.
Au téléphone sonne ce soir la qualité de notre sommeil. En cette journée mondiale qui lui est consacrée, un quart des Français dorment moins de 7 heures par nuit. Ils sont donc en privation de sommeil qui génère parfois une somnolence dans la journée avec les conséquences que nous allons énumérer dans un instant avec nos invités. Un quart des adultes se déclarent somnolents en journée. C'est une enquête OpinionWay pour l'Institut du Sommeil et de la Vigilance. Vous faites peut-être d'ailleurs partie de ces Français qui piquent du nez en pleine journée, alors appelez-nous ce soir. Avons-nous d'ailleurs la culture de la sieste? On va évoquer ce soir les nuits trop courtes, les horaires décalés, trop de café, trop d'alcool, la prise de certains médicaments, autant de facteurs qui peuvent nuire donc à notre sommeil. On vous invite ce soir à retrouver le chemin du bon gros dodo, ce sommeil dont on aimerait qu'il redevienne réparateur. On attend vos questions et autres témoignages. Le téléphone va sonner jusqu'à 20h.
Le téléphone sonne 01 45 24 7000.
Avec un premier auditeur, c'est Thierry qui nous appelle de La Rochelle. Bonsoir Thierry.
Oui, bonsoir Eric. Alors moi je vous appelle parce que en 2003-2004, j'ai fait une formation pour changer complètement d'orientation professionnelle. Je suis parti dans le monde du BTP. Je pilotais des grues de chantier, des grues à tours. Et en 2008, donc j'avais déjà 4 ans d'expérience. J'avais très souvent, en fin de matinée ou dans l'après-midi, dans des moments un petit peu calmes, des coups de barre, mais à m'endormir profondément, quoi. Du coup, j'avais des collègues qui m'appelaient. Des fois, je répondais même pas tellement je dormais profondément. Enfin, c'était un peu pas dangereux parce que je pilotais pas ma machine. Hein. J'avais les bras croisés et ils étaient obligés de me réveiller en mettant des coups de masse dans la grue pour me réveiller. Et au bout d'un moment, je me suis quand même inquiété. Je suis allé voir mon généraliste qui m'a envoyé vers un spécialiste. Et mon spécialiste m'a dit, écoutez, on va vous mettre un appareillage pour une nuit. Et demain matin, vous reviendrez me voir pour qu'on fasse un débriefing. Et en fait, je faisais de l'apnée du sommeil.
Mais...
Alors, sachant que je sais que ça peut toucher des gens qui sont en surpoids. Enfin, moi, c'était pas mon cas, hein. Donc, je faisais des apnées de 45 secondes et j'en faisais à peu près une quarantaine de par heure, ce qui est énorme.
Merci beaucoup de ce témoignage, Thierry, à La Rochelle, avec ce soir deux invités pour vous répondre. Armelle Rancillac, vous êtes chercheuse en neurosciences au Collège de France et à l'INSERM, spécialiste de l'étude du sommeil et également coordinatrice de la semaine du cerveau. C'était il y a quelques jours et vous avez encore le pass près de vous. À vos côtés, Marie-Françoise Vecchierini, bonsoir. Vous êtes psychiatre au Centre du Sommeil et de la Vigilance à l'Hôtel Dieu. Vous êtes aussi membre de l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance. Et puis tout à l'heure, on va passer un coup de fil un peu plus tard à Lionel Nakache, le neurologue de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, qui est professeur à Sorbonne Université, qui est connu aussi pour ses travaux en neurosciences. Et on parlera avec lui justement, tiens, de l'apnée du sommeil. Un mot peut-être, d'abord je me tourne vers vous, Marie-Françoise Vecchierini, vous consultez donc et vous avez de nombreux cas d'apnée du sommeil. Que viennent vous dire les patients sur ce sujet?
Eh bien les patients, d'abord ils viennent nous dire qu'ils ronflent la nuit.
Eh oui.
C'est d'abord un des signes.
L'apnée du sommeil est liée au ronflement, ou inversement.
Voilà. Et ben, le ronflement, c'est un premier signe comme quoi l'air passe mal dans nos voies aériennes supérieures. Et l'hypopnée, l'apnée, ce sont des événements qui montrent que ça passe de plus en plus mal. Et ce sont des gens qui, effectivement, se réveillent le matin avec l'impression qu'ils sont encore aussi fatigués que quand ils se sont couchés la veille. Et comme monsieur l'a décrit très bien au téléphone tout à l'heure, la moitié d'entre eux sont franchement somnolents dans la journée et avec parfois, c'est un peu plus rare, comme des attaques de sommeil, ce qui est un peu plus rare. Autrement, ils ressentent une somnolence.
On va reparler tout à l'heure de cette somnolence. Armelle Rancillac, je rappelle, vous êtes chercheuse en neurosciences au Collège de France et à l'INSERM. Moins de 7 heures de sommeil par nuit, en semaine en tout cas, c'est la moyenne des Français. C'est un peu juste. Où placer le curseur?
Alors, le problème avec le sommeil, c'est qu'il y a une très grande variabilité inter-individuelle. On n'est vraiment pas tous égaux. Il y a des petits dormeurs, des grands dormeurs.
Les gros dormeurs demandent 10 heures de sommeil en moyenne. Oui, même
pas,
plus.
C'est beaucoup, mais...
Ah, bah, parce que j'ai lu, donc je pensais que 10 heures, c'était pour les gros dormeurs. Ils ne sont pas si nombreux que ça. Le curseur, donc, je vous demandais, il est où ?
On recommande entre 7 heures et 8 heures de sommeil en moyenne, mais c'est vraiment à chacun de voir dans la journée s'il ressent une certaine fatigue ou pas. Si tout va bien, c'est que les quotas de sommeil normalement est respecté. S'il y a de la somnolence ou de la fatigue, soit c'est qu'on manque de sommeil, dans ce cas-là, il faut privilégier, augmenter son temps de sommeil, ou si on est vraiment extrêmement fatigué avec des attaques de sommeil, là, bien sûr, consulter son médecin.
Et à partir de quand peut-on parler de troubles du sommeil ?
Ben c'est dès que ça va impacter la vie de tous les jours et qu'on sent qu'on n'est plus aussi optimum et efficace qu'on devrait l'être ou qu'on l'était avant. Dès qu'il y a un changement significatif, il faut vraiment en parler le plus vite possible pour trouver des solutions et mieux vivre.
On va retourner au standard. Patrice nous appelle. Bonsoir Patrice.
Oui, bonsoir.
Quel est votre témoignage ou votre question ?
Alors, ben, ce témoignage en même temps une question. Je voudrais savoir quels sont les éventuels effets indésirables des somnifères du type bien connu zopiclone. Alors la littérature scientifique précise que c'est un hypnotique de la famille chimique des cyclopyrolones. Voilà.
Un peu du chinois pour moi, on va en parler à nos invités.
Et je voudrais savoir si ça dépend de la dose. Et je vais poser la question à différentes personnes de santé. Pour les unes, c'est dangereux pour le foie, pour d'autres non. Et moi, la question que je me pose, c'est pour le cerveau. Est-ce que si on prend chaque soir un comprimé ou un demi-comprimé, on risque de perdre des neurones, du discernement, au point de prendre Poutine et Trump pour un bisounours, par exemple.
Marie-Françoise Vecchierini, je vous renvoie à la question. Je rappelle, vous êtes psychiatre au Centre du Sommeil et de la Vigilance à l'Hôtel Dieu. La prise de somnifères, avec quelles contre-indications est celui qui a été nommé en particulier ?
Alors, la zopiclone fait partie des produits qui sont très proches des benzodiazépines et les effets sont surtout des effets à long terme, mais comme tout hypnotique. C'est-à-dire qu'un hypnotique, c'est comme une béquille. Vous pouvez avoir un contrat avec le malade et lui prescrire un hypnotique à un moment où ça va très mal. C'est pas un traitement long cours. Et c'est pareil pour la zopiclone que pour les autres hypnotiques, bien qu'ils sortent actuellement de nouveaux hypnotiques, nouvelle génération, différents dans leur mécanisme d'action, sur lesquels on n'a pas encore beaucoup de recul. Mais en principe, un hypnotique, c'est pris pour une période donnée, c'est comme un contrat avec le patient.
Mais est-ce que certains peuvent s'en défaire facilement et finalement le prennent un peu trop sur la longue durée ?
Alors ça c'est le problème, c'est-à-dire que quand on arrête un hypnotique, il faut avoir un plan d'arrêt.
Oui.
Il faut diminuer très progressivement pour pas qu'il y ait éventuellement de rebond d'insomnie.
Au 01 45 24 7000, Isabelle est en ligne. Bonsoir Isabelle.
Oui, bonsoir.
Avec le sourire, vous nous appelez de Corrèze.
Oui, tout à fait, mais moi je suis un cas atypique, c'est que je dors, voilà. Je regarde ma pendule, il est 10h10, je me dis tiens, j'ai un petit peu sommeil, donc je vais me coucher. Et là, j'ai pas besoin, et je vous précise que j'ai quand même 68 ans. Donc, et ça a été comme ça toute ma vie. Donc, je me dis, je me couche, et on n'a pas besoin de me dire bonsoir que déjà je dors. Et je dors entre 8 et 10 heures, et je me lève, je suis en pleine forme, et en plus, je fais une toute petite sieste entre toutes les personnes qui me connaissent et qui m'aiment ne m'appellent jamais entre 1h et 2h parce qu'ils savent que je fais pas une sieste complète mais que je me repose et après je repars comme une pendule, enfin je suis remontée comme un automate.
Parfait, enfin je suis pas médecin du tout mais quand vous me dites que vous dormez bien et qu'en plus vous faites une petite sieste et que vous vivez ça très bien et mais vous nous appelez avec le sourire, je dis c'est parfait.
Et en plus je vais vous dire, c'est que quand je pose ma tête sur mon oreiller et qu'au bout de 5 minutes je dors pas, je me dis ça y est, je fais une insomnie. Donc je suis totalement affolée. Donc dans ces cas-là, je respire 3 fois et je me dis, imagine une plage, puisque j'ai vécu en Afrique, avec du sable blanc, des palmiers, la vague qui arrive et qui recule, la vague qui arrive et qui retourne. Et là, en 2 minutes, je m'endors.
Et voilà, ben c'est bien vécu. Ça fait du bien d'entendre aussi ce témoignage, parce que ce soir, on ne va pas entendre que cette sorte de témoignage où tout semble bien vécu et avec un bon voisin qui s'appelle votre sommeil. Armel Rancillac, ne pas dormir assez, ça a des conséquences sur notre santé, notamment dans le registre émotionnel.
Oui, parce que le sommeil va être constitué d'une première phase de sommeil lent, très important pour la reconstitution physique, suivi d'un sommeil paradoxal plus important pour la régénération émotionnelle. Donc si on ne dort pas assez, on va avoir des conséquences et sur le court terme, dans les deux catégories, et sur le long terme. Donc sur le court terme, on va avoir un manque de vigilance avec de la somnolence, c'est le thème de cette année. On va avoir également un affaiblissement du système immunitaire, des perturbations métaboliques, des troubles de l'humeur avec plus d'irritabilité, plus d'anxiété aussi, surtout si on écoute les infos, et une diminution des performances cognitives.
Donc ne pas dormir suffisamment, ça impacte beaucoup de domaines. Par exemple, la concentration, la mémoire, ça a aussi un impact là-dessus.
Totalement, parce que la mémorisation est consolidée pendant le sommeil. Et récemment, on a même fait des études qui ont montré que ça diminuait l'empathie au niveau social et même au niveau sociétal. Si on manque de sommeil, on a plus de difficultés à se transposer et interagir avec les autres. Et du coup, la distanciation sociale va augmenter. Donc ça, c'est pour le court terme. Pour le long terme, il y a toutes les maladies cardiovasculaires, les AVC, les maladies métaboliques, les cancers, la dépression et même les maladies neurodégénératives.
L'obésité, je disais, le diabète aussi. Par manque de sommeil, on peut aller jusque-là.
Oui, tout à fait, parce qu'on va moins bien métaboliser et réguler sa glycémie.
On va y revenir tout à l'heure avec Lionel Nakache. Vous parliez des phases du sommeil, Armelle Rancillac. Sommeil léger, sommeil lent, sommeil profond, sommeil paradoxal. À chaque phase correspond à une fonction bien particulière?
Oui, au début de l'endormissement, on va avoir le sommeil lent léger, qui va être propice à la créativité. Ensuite, on va avoir le sommeil lent profond, là qui va être très important pour les défenses immunitaires, la consolidation de la mémorisation, la libération de l'hormone de croissance, de la testostérone. Et ensuite, le sommeil paradoxal, où là, on va avoir toute la régulation émotionnelle.
On va retourner au standard 01 45 24 7000. Michel nous appelle de Charente-Maritime. Bonsoir Michel.
Bonsoir à tous.
Dites-nous votre rapport au sommeil.
Un témoignage et donc une question. Le témoignage, il y a 2 ans et demi, j'ai acheté une Tesla. Première fois que j'avais une voiture avec un GPS intégré.
Je vois pas bien le rapport pour l'instant, mais vous allez m'expliquer.
Eh bien, le sommeil est parti. J'ai quasiment eu des problèmes de sommeil de plus en plus importants. Et au bout de 2 ans, en l'utilisant donc souvent, la Tesla, je n'arrivais plus à m'endormir.
À cause du GPS, je suis pas au courant. Visiblement, c'est connu de nos invités, non plus. Le GPS vous empêche
Oui. J'ai revendu la voiture. Oui. J'ai commandé une voiture sans GPS. Par exemple, quand je montais à Paris, je n'arrivais plus à dormir dans un appartement de ma mère. Je n'arrivais pas à dormir. Je me disais, mais pourquoi autant d'insomnie à Paris? Mes enfants ont regardé. On capte 26 Wi-Fi différentes dans un appartement. Et c'est vrai que moi, j'habite donc en province, dans une maison isolée. Donc, si vous voulez, je ne suis pas sujet à ce genre de ondes, quoi.
Bon, eh bien, écoutez, voilà. Ça, c'est pour le témoignage. La question qui suit après,
c'est de savoir, parce que donc, vous savez, on met le manque de sommeil sur le café, le stress, la vie quotidienne, les soucis. Mais la question, dans notre société, où on a de plus en plus d'ondes, comme le GPS pendant plusieurs heures par jour, les Wi-Fi à la maison, tout ça. Eh bien, la question, est-ce que les ondes peuvent altérer les hormones d'endormissement et donc provoquer des problèmes de plus en plus importants de sommeil? Pour certains, c'est comme les cancers. Tout le monde n'a pas un cancer. Mais pour certains, est-ce que les ondes peuvent perturber le sommeil?
Eh bien, perturber le sommeil et perturber le cerveau. Bonsoir Lionel Nakache.
Bonsoir.
Vous êtes neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, professeur à la Sorbonne Université. Vous êtes connu pour vos travaux en neurosciences à l'Institut du cerveau. C'était il y a quelques jours, la semaine du cerveau, un peu en préambule de cette journée mondiale du sommeil. Alors notre auditeur nous dit que les ondes GPS, les ondes Wi-Fi, ça perturbe et son cerveau et son sommeil. Quelle corrélation vous y voyez, vous, le spécialiste?
Alors écoutez, les ondes, là c'est un sujet en soi, vous me prenez un peu au dépourvu parce que c'est mon sujet à moi, c'est plutôt vraiment la conscience, la vie mentale en général, plus que le sommeil.
On va en parler.
On peut dire que, évidemment, c'est surtout l'interaction avec les écrans, vous voyez par exemple les lumières qui pourraient, en exposition importante, perturber dans les rythmes veille-sommeil, la synthèse de mélatonine, etc. Donc là, il y a pas mal de travaux qui sont faits pour évaluer quelles sont la qualité des types de lumières qu'il faudrait utiliser autour des périodes de sommeil, comme les simulateurs d'aube, etc. Voilà. Ensuite, c'est une question beaucoup plus large de mesurer quelles sont les ondes qui sont utile ou éventuellement néfaste, quoi.
On entendait tout à l'heure que le sommeil avait entre autres vocation celui de nettoyer le cerveau, celle de nettoyer le cerveau. Qu'est-ce que le sommeil nettoie dans notre cerveau ?
Alors en fait, ça, ce sont des données assez récentes, à vrai dire, selon lesquelles, durant les, en fait, le cerveau, évidemment, c'est un des organes du corps, il est en relation avec le reste du corps, et pendant les phases de différentes phases de sommeil, eh bien, ce qu'on peut appeler la clearance, ça veut dire qu'il y a des sortes d'évacuation de certaines protéines, de certaines substances qui sont sécrétées par le cerveau, et vous savez que beaucoup de maladies neurodégénératives, celles qu'on commence à connaître, même si le scénario causal exact reste encore imprécis, je pense aux maladies d'Alzheimer ou apparentées. Dans le scénario de ces maladies, le scénario causal, il y a l'accumulation de protéines. Alors, on ne sait pas encore exactement dans quel sens ça joue, mais on sait que ces accumulations sont associées à la maladie. Eh bien, durant le sommeil physiologique, le sommeil normal, il y a des périodes du sommeil où certaines des protéines ou des autres substances fabriquées par le cerveau vont circuler, vont être évacuées dans la circulation générale. Donc, on peut voir là aussi, ça, ce sont des données assez récentes sur l'intérêt du sommeil, également pour la régulation du milieu intérieur tel qu'il est dans le cerveau, au niveau cérébral.
Et puis l'un des mots chez les dormeurs, on l'a entendu avec notre premier témoignage, c'est l'apnée du sommeil, une forme de manque d'oxygène. Avec quelles conséquences dans ce sommeil que l'on souhaite réparateur ?
Oui, alors vous voyez, l'apnée du sommeil, moi je suis également neurologue et chercheur, et par exemple le vendredi c'est mon jour de consultation, et des patients viennent me consulter, par exemple, pour des problèmes de mémoire. Et heureusement, chez certains d'entre eux, en les interrogeant, on se rend compte qu'ils font sans doute des apnées pour un ensemble de symptômes que l'on recherche. On découvre l'apnée par un enregistrement. On peut le traiter, on peut les traiter, ces apnées. Et là où c'est extrêmement intéressant, et mes collègues le mentionnaient, c'est qu'il y a différents stades de sommeil qu'on va gagner progressivement. Et un des stades de sommeil, le sommeil qu'on qualifie de profond, le sommeil à ondes lentes profond, le sommeil N3 pour les techniciens du sommeil, eh bien, en réalité, ce sommeil, il est très important pour la consolidation des souvenirs, des épisodes, des scènes que l'on vit dans la journée. Et donc si on fait des apnées en permanence, c'est-à-dire que vous vous endormez, il y a un obstacle respiratoire, vous n'arrivez pas à le vaincre par les mécanismes réflexes du tronc cérébral qui peuvent fonctionner de manière inconsciente pendant le sommeil, ça vous réveille par une sorte de régulation homéostasique. En étant un micro-éveil, vous pouvez du coup mettre en marche votre ventilation volontaire, lever l'obstacle, vous vous rendormez aussitôt, donc vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes réveillé. Le problème, c'est que ce scénario va se répéter plusieurs centaines de fois dans une nuit, et donc vous n'aurez jamais le temps de gagner les phases du sommeil profond. Or, c'est durant ces phases que la consolidation des souvenirs opère, et là, on a fait des découvertes absolument fantastiques depuis une vingtaine d'années.
Lionel Nakache, vous avez mis en évidence avec les chercheuses Isabelle Arnulf ou Delphine Oudiette, et d'autres collègues encore, que le dormeur n'est finalement pas aussi déconnecté du monde extérieur que ce que l'on croyait jusqu'à présent.
Oui, on a eu la chance de faire vraiment une découverte importante l'an dernier, qu'on a publié dans un des grands journaux neuroscientifiques, Nature Neuroscience. Et en gros, la découverte principale, c'est que loin d'être un sujet déconnecté du monde extérieur, eh bien, durant le sommeil, mes collègues avaient découvert, en fait, que si on envoie des mots ou des choses qui ressemblent à des mots, qu'on demande à un sujet de faire un dormeur, de faire une tâche cognitive, il commence à la faire réveiller, donc il sait la faire en répondant. Et puis, on a pu se rendre compte que les dormeurs continue parfois à répondre de manière tout à fait correcte au stimulus qu'on leur envoie, qui est un mot, soit un vrai mot, soit un pseudo-mot. Bon. Et cette réponse prouve que notre cerveau peut continuer à traiter de manière assez élaborée certaines informations du monde extérieur, alors pas tout le temps durant le sommeil, mais durant certains moments. Et là, elles ont tapé à la porte de mon laboratoire, parce qu'on est collègues proches, et elles savent que je travaille sur la conscience. Et en fait, comme il y avait des données 2EG du sommeil, donc l'activité électroencéphalographique des dormeurs, avec mes collègues, ce que nous avons démontré, c'est que les périodes où vous allez répondre à un stimulus qu'on vous envoie, eh bien vous y répondez parce que votre cerveau est passé dans un mode de traitement conscient. Autrement dit, il semble que on savait déjà que le sommeil, c'est pas continu, mais c'est même plus que ça, c'est une sorte de mosaïque. Il y a des petites briques temporelles, des petits moments où nous redevenons conscients pendant un instant. Voilà, tous les stades du sommeil.
Le sommeil n'est pas monolithique, hein, vous l'expliquez très bien. Merci beaucoup Lionel Nakache. Le sommeil, comment vous l'appropriez-vous ? C'est le thème ce soir jusqu'à 20h, le téléphone sonne.
France Inter, le téléphone sonne.
Avec Nicolas qui est en ligne. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Quel est votre témoignage ou votre question ?
Ben effectivement, ça peut déjà être un témoignage. Il y a quelques années, j'ai fait un changement de régime assez radical en réduisant énormément la consommation de glucides dans ma vie, notamment le midi. Et en fait, l'un des premiers impacts que j'ai eu, c'est le fait de ne plus avoir de somnolence ou très très peu lié à l'hypoglycémie après les repas. Et donc, du coup, je me posais la question, parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'amis qui somnolent ou qui ont du mal après les repas, très souvent. Hein, et donc, du coup, je me demandais si dans la recherche sur la somnolence, on se posait la question de l'impact de la nutrition, et notamment des plats hypertransformés qui contiennent des glucides à haut indice glycémique sur l'état du sommeil et de la somnolence en général.
Eh bien, merci de ce témoignage et de cette question. En même temps, je la renvoie à Marie-Françoise Vecchierini, qui est psychiatre au Centre du Sommeil et de la Vigilance à l'Hôtel Dieu. Moins de glucides, moins de somnolence, c'est lié?
Alors, il y a de toute façon une phase où on est moins vigilant en début d'après-midi, ça dépend des rythmes circadiens, mais bien entendu, cette phase de moins bonne vigilance est majorée par ce qui est consommé au moment du déjeuner. Et les glucides, s'ils sont pas un glucide, c'est un sucre rapide. Si vous faites un exercice physique après, c'est très bien parce que vous utilisez immédiatement votre glucide. Sinon, il peut être source de somnolence.
24% des Français ont des somnolences diurnes. C'est 7 points de plus qu'il y a 15 ans. Le phénomène est particulièrement visible chez les 18-24 ans.
Oui. Tout à fait.
Pourquoi les jeunes en particulier?
Alors, les jeunes en particulier, d'une part parce que leur sommeil n'est pas tout à fait identique, c'est-à-dire que c'est encore un âge où on a l'impression que c'est la fin de l'adolescence, mais ils ont encore un besoin de sommeil qui est supérieur à celui d'un adulte plus âgé. Il y a ça, il y a que ce sont souvent des jeunes qui sont, en retard de phase, ce qui fait qu'ils dorment moins que leurs besoins. Ils ont aussi, on avait noté dans cette enquête, un autre facteur qui est important et sur la somnolence et sur la santé mentale, qui sont les heures de lever très irrégulières. Or, notre horloge biologique,
toujours au même moment.
Voilà, elle a besoin d'une régularité, notamment dans l'heure de lever. Et ces caractéristiques participent avec d'autres facteurs environnementaux, et comme les prises de café, de drogue, etc., certainement à expliquer pourquoi ces jeunes sont en très fort pourcentage plus somnolents que les adultes plus âgés.
Armelle Rancillac.
Oui, je voulais juste rebondir un peu sur le glucose et son effet hypnotique. Moi, je travaille au laboratoire avec mes collègues sur des tranches de cerveau, et notamment sur une petite région qui est très importante pour la régulation du sommeil lent. Et on a pu montrer que si on appliquait du glucose sur ces neurones, effectivement, ça allait les stimuler directement. Et ça allait d'autant plus les stimuler le soir en journée que le midi. Donc voilà, on peut adapter son alimentation en fonction de si on veut rester éveillé ou pas.
Mais comment d'ailleurs est-ce qu'on...
Quand vous dites stimulation, ça veut dire stimulation plutôt, alors pas l'éveil.
Stimulation du sommeil.
Du sommeil.
Je retourne la question à vous, Marie-Françoise Vecchierini. Comment est-ce qu'on connaît d'ailleurs précisément notre besoin de sommeil?
Écoutez, des expériences ont été faites aux États-Unis par Madame Carscadon il y a déjà plusieurs années, et nous, ce qu'on fait dans la pratique, c'est de dire aux gens, quand vous êtes en vacances, vous commencez par récupérer du sommeil qui vous manque. Et puis, au bout de 8 jours, vous allez dormir correctement. Alors, faut pas qu'ils profitent des vacances pour faire
la Java tous les soirs.
Non, effectivement.
Quoique.
Et on détermine comme ça, on est proche de déterminer quel est le besoin de sommeil qui fait, comme l'a dit Armelle tout à l'heure, qui fait que les gens vont être en forme dans la journée.
On va au standard. Catherine nous appelle de Saint-Nazaire. Bonsoir, Catherine.
Oui, bonsoir. Alors, moi, ce qui m'intéresse aussi sur ce thème, c'est la fatigue. Et ma question, c'est les inventions technologiques de ces dernières années, qui sont des sursollicitations au niveau visuel et auditif, les SMS, les mails, les choses à écouter souvent dans les oreilles, les écrans beaucoup. Moi, je me demande si la prise en compte de la santé dans ces inventions, et est-ce qu'on tient compte de leurs critères de fatigue? Est-ce que ça joue?
Merci, merci beaucoup de ce témoignage sur en fait la fatigue numérique. Je me tourne vers vous, Armelle Rancillac, vous êtes chercheuse en neurosciences au Collège de France et aussi à l'INSERM. Cette fatigue numérique par une surexcitation du cerveau,
exactement,
ça fait moins bien dormir.
En fait, le sommeil et l'éveil sont antagonistes, et donc si on en privilégie l'un, ça va être au détriment de l'autre. Et donc pour bien s'endormir le soir, c'est important de renforcer ce qu'on appelle la routine d'endormissement du sommeil et se mettre dans des bonnes conditions pour dormir. C'est-à-dire diminuer le volume sonore, diminuer l'intensité lumineuse, se recentrer un petit peu sur soi, oublier ses préoccupations et son stress de la journée. La nuit, c'est un moment pour soi, pour se ressourcer, pour en profiter, pour faire des rêves extraordinaires. Et voilà, il ne faut pas se priver de ce...
Et votre auditrice a raison, parce qu'il y a certes la lumière qui est dansée, mais aussi c'est le contenu.
Qu'est-ce que vous appelez le contenu?
C'est-à-dire...
L'excitation des messages qu'on peut recevoir, qui va provoquer un
hyper-veil. Émotion.
Important que la lumière que l'on reçoit. Les deux vont de pair.
Estelle nous appelle d'Amboise. Bonsoir Estelle.
Oui, bonsoir. Alors, en fait, moi je me couche à peu près tous les soirs à la même heure, vers 23h. Je me réveille vers 7h15 et je me réveille pourtant fatiguée et je laisse ressonner le réveil. Hein, je sais que c'est une erreur, mais parfois je me réendors profondément dans les 9 minutes que dure ce petit laps de temps. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est quel est mon rythme de sommeil et comment je peux le connaître et me réveiller pas fatiguée et d'un coup.
On l'a un petit peu évoqué, mais je vais vous reposer la question, Marie-Françoise Vecchierini. Comment pouvons-nous précisément connaître notre rythme de sommeil? Il faut aller consulter.
Si vous êtes fatigué, oui, il vaut mieux aller consulter.
Mais sans être forcément fatigué, comment est-ce qu'on sait qu'il nous faut 6 heures, 7 heures, 8 heures ou plus?
Eh bien, que fait-elle le week-end? Est-ce qu'elle a le même trouble ou pas? C'est-à-dire dans une zone où vous n'êtes pas obligé de vous lever, où il n'y a pas d'honneur de temps par le travail, combien de temps elle peut dormir alors qu'elle n'est pas en privation de sommeil? Et est-ce qu'elle est bien dans la journée?
Je pensais à d'autres facteurs. Certains boivent du café avant de dormir et ça ne les empêche pas du tout. D'autres ne veulent surtout pas prendre de café parce qu'ils disent « je ne veux pas dormir », comme s'il y avait aussi là une inégalité d'approche.
Oui, mais ça, le café, c'est connu. Le café joue un rôle antagoniste des récepteurs à l'adénosine. Enfin, c'est compliqué, mais on a sur nos cellules des récepteurs sur lesquels se fixe le café et qui empêchent un produit qui nous aide à dormir.
Voilà. Eh bien, vous demandez ce que faisait Estelle le week-end. Elle est encore là, Estelle. Vous faites quoi le week-end?
Je dors plutôt 10 heures, 11 heures, parfois même 12 heures. C'est catastrophique.
Ben non, c'est qu'il faut dormir plus en sommeil.
Ça n'a rien de catastrophique, il faut juste vous adapter à ce rythme-là.
Oui, mais si c'est au-delà de 11 heures, elle peut aller consulter.
Ah, au-delà de 11 heures, c'est un problème.
Mais oui.
D'accord. Merci beaucoup. Je note au passage que vous avez dit, Estelle, que c'était une erreur que de faire ressonner son réveil. Je vous pose la question.
La fonction snooze, il y a des études qui ont été bien menées à ce sujet. Et il va y avoir deux catégories de personnes, en fait. Certaines où, effectivement, il vaut mieux privilégier un réveil vif et dynamique pour optimiser son éveil et, du coup, gagner en qualité. Et d'autres personnes qui vont avoir un ressentiment de un peu de luxe, se dire « ah ben, je peux gagner un peu de temps » et, du coup, ça va être un confort et c'est moins négatif que ce qui n'y paraissait il y a quelques années. Donc, ça dépend de chacun, encore une fois.
Un mot sur la sieste. On a parlé de somnolence, le moyen de... contrecarrer cette somnolence et d'aller faire une sieste dans la journée. Alors, longue sieste, petite sieste, micro-sieste, comment est-ce qu'on décline ça?
Alors, ça va dépendre du besoin de sommeil. Effectivement, si on est en grosse dette, on va devoir faire un cycle total de sommeil, c'est-à-dire ça va durer un peu plus.
Il faut nous rappeler ce que c'est qu'un cycle, en fait, parce que l'auditeur ne sait pas ce que c'est qu'un cycle.
Un cycle de sommeil correspond chez l'humain à peu près à 90 minutes, et avec une première phase de sommeil lent, suivie d'une sommeil paradoxale. Donc la succession de ces deux phases fait un cycle de sommeil qui normalement se répète.
Toutes les 90 minutes, pendant 4 fois, 4 cycles dans la nuit, un peu plus.
4 ou 5 selon les individus. Et c'est pour ça que des fois, si on se réveille avant la fin du sommeil paradoxal, donc pendant le sommeil lent, pas à la fin d'un cycle, le sommeil va être encore en pleine inertie, et ça va être très difficile d'émerger. Donc il faut apprendre à régler son sommeil pour qu'on se réveille à la fin d'un cycle, ce qui est, je vous l'accorde, pas toujours évident.
Sur la sieste, oui, je vous en prie.
C'est pour ça qu'on conseille des siestes plutôt courtes.
C'est-à-dire une sieste courte, c'est quoi, 20 minutes, moins d'une heure? 20 minutes, c'est bien.
20 minutes, parce qu'on ne fait que du sommeil lent, léger. Et, il a, et donc, on n'a pas ce que vous décriviez avant.
On ne peut pas rentrer dans le sommeil, dans
voilà,
le sommeil
dans
lent
le sommeil profond.
Alors, je lisais dans l'étude de l'Institut National du Sommeil et de la Vigilance qu'on pratique en France de plus en plus de siestes, justement, comme un besoin de réparation. Et pourtant, la sieste reste culpabilisante. On complexe, on n'ose pas dire qu'on fait la sieste, et encore moins au bureau, alors qu'au Japon, c'est très valorisé.
Tout à fait.
Et donc c'est un problème, il faut expliquer que la sieste, même au bureau, pourquoi pas, si c'est une micro-sieste, ça peut être très bien, même pour le patron.
Oui, mais c'est les États-Unis qui ont fait des études sur la performance au travail chez ceux qui ressentaient une somnolence en début d'après-midi et qui faisaient la sieste, et les autres qui ne faisaient pas la sieste, et ayant constaté que ceux auxquels on donnait 20 minutes de sieste devenaient beaucoup plus performants l'après-midi, certains établissements, il y en a aussi en France, ils sont certes pas nombreux, mais
qui organisent des
pièces avec des fauteuils très relaxants où les gens peuvent venir une demi-heure et dormir si nécessaire.
François nous appelle. Ah, pardon.
Il y a même des artistes qui se servent de ces petites siestes pour augmenter leur créativité. 20 minutes, on se relâche, du coup on fait des connexions un petit peu différentes dans notre cerveau et ça permet de faire émerger des nouvelles idées, des nouveaux concepts et du coup d'être plus productif au travail.
Dormir, bien dormir, rend créatif. Vous venez de le démontrer. François nous appelle des Hauts-de-Seine. Bonsoir François.
Oui, bonsoir, merci. Voilà, écoutez, moi je dors très très mal suite à des problèmes perso. Je voudrais savoir ce que vous pensez des produits qu'on vend en pharmacie sans ordonnance, la mélatonine type Pronobian et ce genre de produits.
Eh bien,
est-ce qu'il y a des risques d'accoutumance? Est-ce que c'est efficace?
Je vous renvoie cette question, Marie-Françoise Vecchierini. Je rappelle que vous êtes psychiatre au Centre du Sommeil et de la Vigilance à l'Hôtel Dieu. En pharmacie, la mélatonine, risque d'accoutumance, pas? Efficace ou pas?
Efficace modérée, très modérée.
Efficacité modérée.
Oui, ça aide à l'endormissement. Dans certains cas, ça peut aider la continuité du sommeil, mais ce n'est pas un hypnotique.
Parce que François parlait des produits en vente libre dans les pharmacies.
Oui, alors il y a une mélatonine qui est dite la mélatonine libre. Et à ce moment-là, c'est un chronobiotique. C'est-à-dire ça sert à remettre les gens qui n'ont pas des horaires de sommeil adéquats en adéquat dans ça. Et puis, il y a la mélatonine à libération prolongée, ce qui est mis maintenant dans ce qui est vendu en pharmacie à 1,9 mg, parce que ce n'est pas considéré encore comme un médicament, dont l'idée a été au départ que les sujets âgés sécrétaient moins de mélatonine que les adultes plus jeunes, et qu'on pouvait alors, chez ces sujets âgés, essayer de donner de la mélatonine comme un moyen supplétif d'un manque. Et puis, ça s'est développé, et comme la mélatonine a un petit effet sédatif par lui-même, ça a été utilisé dans les compléments alimentaires, mélangé à des plantes qui sont connues pour être plutôt sédatives. Et voilà. Mais ce n'est pas un hypnotique, ce n'est pas la mélatonine qui permet de prendre en charge une insomnie.
Une grosse pathologie. Problème d'accoutumance, demandait l'auditeur. Non, pas d'accoutumance avec la mélatonine. Daniel nous appelle du Morbihan. Daniel de Zelleux.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, moi, je voudrais savoir quel est l'impact des rêves sur le sommeil.
Bien, la question est courte, la réponse va être étayée. Je me retourne vers Armelle Rancillac, qui est chercheuse en neurosciences au Collège de France et à l'Inserm. On parlait des rêves, c'est le sommeil paradoxal qui englobe ça?
Alors il y a deux types de rêves, les rêves du sommeil lent qui sont un peu plus banals, stéréotypés, moins colorés, et les rêves du sommeil paradoxal qui sont un peu plus exotiques et riches en émotions. Ils vont avoir différentes fonctions, la régulation du stress, on l'a déjà dit, mais aussi la mise en condition, c'est-à-dire si on rêve plusieurs fois qu'on va passer son permis de conduire, on va oublier deux, trois fois sa carte d'identité, une fois on va arriver tout nu, et comme ça va nous permettre d'anticiper tous les problèmes qui pourraient arriver pour être beaucoup plus performant le jour J. Donc ça, c'est vraiment une fonction très importante du sommeil. Et effectivement, si on a subi un stress, on peut revivre en rêve une stimulation et un événement qui nous a été un peu traumatisant, mais dans des conditions sécurisantes. Et du coup, ça va diminuer un petit peu la valence émotionnelle qu'on met sur ce rêve et permettre de mieux surmonter l'événement traumatisant.
Et comment ceux qui disent perdre leur sommeil, et perdre, pardon, leur rêve, et question sur « mais j'ai perdu mes rêves, je dors mais je n'ai plus de rêve », est-ce qu'ils ont des chances de retrouver un rêve? C'est important?
Ils rêvent quand même.
Ils rêvent quand même, ils n'en ont pas conscience.
La difficulté du rêve, c'est de s'en souvenir et ensuite de le traduire par écrit. C'est ce qu'on appelle les carnets de rêve.
Il faut toujours avoir un crayon, un carnet près de la table de chevet si on veut comprendre.
Ça dépend du moment auquel on se réveille. Oui. Si vous vous réveillez à la fin des rêves, au moins vous vous en souvenez momentanément.
Question d'auditeur par internet, le rôle de la luminosité, est-ce que la luminothérapie peut aider à mieux dormir?
Notre horloge biologique est remise à l'heure tous les jours, puisqu'elle n'est pas centrée sur 24 heures, par la lumière. Et la lumière, donc, c'est déjà fondamental pour qu'on dorme et qu'on soit vigilant selon un bon rythme de 24 heures. La première chose. La deuxième chose, c'est que la lumière, qui a un effet éveillant par elle-même, a aussi un effet sur l'humeur, et elle tend à faire que les gens soient plus heureux, plus optimistes.
Ce qu'on appelle la lumière bleue, la luminothérapie, c'est pas ça?
Alors, la lumière bleue est la lumière la plus efficace, parce qu'elle agit sur des cellules de la rétine qui sont particulièrement sensibles à la lumière bleue. Mais comme on n'est pas sûr qu'elle n'ait pas d'effet à long terme pour des gens qui auraient des lampes de luminothérapie chez eux, on conseille encore de faire la lumière blanche, parfois enrichie en lumière bleue.
Allez, une dernière question. Il nous reste quelques secondes. Eric, j'aime bien manger le soir, sûrement un peu trop. Est-ce que ça m'empêche de dormir?
Oui, ça risque de nuire à la qualité de son sommeil.
C'est-à-dire trop manger?
Ça augmente la thermogenèse alimentaire. Et comme pour bien dormir, il faut faire chuter sa température interne, ça va être contre-productif.
Eh bien, merci à toutes les deux. Le téléphone sonne, c'est terminé. On va tenter donc, après cette écoute, votre écoute et vos bons conseils, de prendre un peu plus soin donc de notre sommeil.